La rencontre spirituelle aujourd'hui, c'est la fête d'un très grand saint, Saint Cyprien, malheureusement peu connu du public en général, qui a été évêque à Carthage. Carthage, au IIIe siècle, était une ville chrétienne assez importante, et on est avant évidemment l'arrivée des Arabes et la conquête de Carthage. En 698, quand le christianisme a été aboli en Afrique du Nord, pour ainsi dire, ou presque, et alors Saint Cyprien, qui était donc évêque de Carthage, a marqué l'Église, particulièrement l'unité de l'Église. Il a lutté pour l'unité de l'Église, comme vous verrez tout à l'heure. C'est un saint courageux, audacieux. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. C'est aussi la fête aujourd'hui de Sainte Colombe. Il y a des colombes, oui d'accord, mais il y a des femmes qui s'appellent Colombe, j'en ai connu. Il y avait Colombe Pelletier qui était très réputée. Eh bien, elle est à la source, paraît-il, du phénomène du monstre du Loch Ness en Écosse. Oui, on dit que ça a débuté en 564 après Jésus-Christ, cette légende du monstre du Loch Ness, dont tout le monde a entendu parler, j'imagine. Hein? Et c'est en 564 que Sainte-Colombe aurait vu un phénomène extraordinaire sur le lac. Et puis depuis ce temps-là, et surtout depuis, disons, une cinquantaine d'années, on parle beaucoup de ce fameux monstre, et encore cette année, au mois de juin, on dit qu'il y avait eu de mystérieux mouvements sur ce fameux lac très profond du Loch Ness en Écosse, des mouvements zigzags, etc., etc. Simple anecdote, sans grande importance évidemment, mais c'est amusant. Donc Sainte-Colombe, c'est sa fête aujourd'hui. Mais c'est surtout la fête donc de Saint-Cyprien et de Saint-Corneille aussi, qui étaient deux amis. Saint-Corneille qui était pape très peu d'années, un peu plus de 2 ans, de 251 à 253. Il avait succédé au pape Fabien. Certaines personnes seront surprises de voir qu'il y a un pape qui s'appelait Corneille. Mais l'un des plus grands écrivains français s'appelait Corneille. Et c'est un nom comme un autre, hein. Il y a bien des gens qui s'appellent Poulain, et puis toutes sortes de noms comme ça, les pigeons. Et alors, pourquoi pas Corneille? Et donc, il a été pape 2 ans, et son ami Saint-Cyprien a toujours loué la bonté du pape Corneille. Qui a été en lutte contre un intégriste notoire de son époque, Novatien. Il y avait déjà des intégristes à cette époque, hein, qui ne voulaient pas reconnaître la façon du pape de reconnaître le baptême des hérétiques, ceux qu'on appelait des hérétiques, c'est-à-dire ceux qui étaient séparés de la grande église, qui était évidemment l'église catholique. Je ne vous parlerai pas vraiment de Corneille, je vais vous parler de Saint-Cyprien. On a sa vie écrite par Ponce, qui était le diacre de Saint-Cyprien. Ça ne nous apprend rien de sa naissance. Il commence son histoire par sa conversion à la foi catholique. Oui, c'est un homme qui s'est converti à la foi catholique à 40 ans. Cyprien, devenu ce grand saint. Nous savons, par Saint Grégoire de Nazianze, qu'il était d'une famille plutôt assez illustre, et même, dit-on, de l'ordre des sénateurs, ce qui était déjà très important à l'époque, surtout peut-être plus important à l'époque qu'aujourd'hui, sans vouloir insulter nos sénateurs. Et on dit qu'il possédait de grandes richesses, et on croit qu'il est né dans la ville de Carthage même. Carthage est une ville qui était près de la ville de Tunis aujourd'hui, en Tunisie évidemment, donc en Afrique du Nord. Et elle était si importante, cette ville, qu'elle était pour ainsi dire la capitale de toute l'Afrique connue de l'époque, c'est-à-dire l'Afrique du Nord. On ne connaissait pas l'Afrique noire, vraiment, on avait des rapports, mais on ne la connaissait pas. Cyprien a été instruit en sa jeunesse, disons, une sorte de cours classique, pour faire comprendre les choses. Enfin, il étudie ce qu'on appelle les arts libéraux. Il s'est rendu habile aussi dans l'art oratoire. Il est devenu avocat, d'ailleurs. Il enseignait publiquement l'art oratoire. Et ses écrits montrent qu'il connaissait très bien ce qu'on appelle la rhétorique. Et puis, donc, il a été avocat, mais il a finalement laissé toutes ces occupations-là pour se tourner vers Dieu, pour changer vraiment d'orientation. Puis il a renoncé à ses richesses qu'il a vraiment données aux pauvres. Et chose étonnante, ce sont des choses qu'on comprend difficilement aujourd'hui, il a renoncé à l'amour de sa femme, à la tendresse qu'il avait pour ses enfants, pour marcher plus aisément dans le chemin de la perfection évangélique. Alors, évidemment qu'on dit qu'il s'est procuré par là de plus grands biens. Je ne suis pas si sûr, finalement. Comment peut-on quitter sa femme et ses enfants? Mais enfin, on n'a pas les mêmes coutumes aujourd'hui que dans ce temps-là, et les lois ont bien changé dans l'Église. Alors, il a méprisé les grandeurs auxquelles il était appelé. Et puis, il a mis toute son espérance en Dieu. Parce que Dieu est devenu celui qui était au cœur de ses préoccupations. Mais ce qui est plus remarquable chez lui, c'est que, alors qu'il était encore catéchumène, il a écrit des ouvrages remarquables déjà sur ce qu'est la foi. Et je vous en parlerai au besoin tout à l'heure si je peux trouver le temps. Il avait, au début de sa conversion, fait déjà des pas énormes que bien d'autres prennent des années, des dizaines d'années pour faire. Il a mis vraiment en pratique les conseils que donne Jésus-Christ dans l'Évangile, avant même d'être baptisé. Il a été converti au christianisme par un prêtre, un saint prêtre, qui s'appelait Cecilius, comme si c'était un peu le masculin de Cécile, hein? Cecilius, qui lui a donné les premières leçons de la foi chrétienne. Et puis, il a donc ajouté à son nom le nom de Cecilius, par reconnaissance pour ce prêtre qui lui avait appris le sens profond de la vie. Il s'en explique aussitôt d'ailleurs, et puis se sert des conseils qu'il a reçus, non seulement pour éclairer son esprit, pour raisonner, mais aussi pour, on pourrait dire, réchauffer son cœur. Il est devenu brûlant, et il est resté brûlant jusqu'à sa mort. Il est mort vraiment comme un saint, un martyr. Il s'est efforcé de pratiquer toutes les vertus qu'il voyait énoncées dans les Saintes Écritures. Et c'est ainsi qu'il a imité, dit-on, la fidélité d'Abraham, la chasteté de Joseph, la douceur de Moïse, la patience de Job, la pénitence de David, le zèle d'Élie. On voit que quand on écrivait des vies dans ce temps-là, on ne ménageait pas les éloges. Et il a suivi de toute façon l'exemple de ces grands saints. Et il s'est rendu lui-même, finalement, comme un modèle sur lequel les autres pouvaient régler leur vie. On l'imitait. On l'aimait beaucoup, dès le moment de sa conversion. D'ailleurs, sa conversion est demeurée toujours ferme. Il n'a pas eu de faiblesse. Il a été tenté, il a été malade, il a été persécuté, il y a eu des tas de problèmes, mais il est resté ferme constamment, avec un courage qui étonnait tout le monde. D'ailleurs, au cours de sa vie, il a toujours reçu, dit-on avec bonté, tous ceux qui avaient recours à lui. Il avait une grande patience, même s'il était évêque de Carthage, qui était un titre extrêmement important. Il était le refuge, d'ailleurs, des veuves. Et tous les gens un peu égarés venaient trouver quelques éclaircissements, quelques lumières auprès de lui. Il a beaucoup aidé des gens très faibles. Il a surtout protégé des gens qui étaient opprimés. Et on dit toujours qu'il a été un modèle dans toutes ces activités-là. Il ne faut pas s'étonner, d'ailleurs, si une vie aussi éclatante, dès sa conversion, a attiré l'attention sur lui. Hein. Il n'était pas encore vraiment baptisé, c'était un néophyte. Qu'on a décidé de l'élever au sacerdoce, alors on l'a baptisé rapidement. et on l'a nommé évêque de Carthage. Ça se faisait, il n'est pas le seul à être passé comme ça de ce qu'on appelle le catéchuménat, la préparation au baptême, à l'épiscopat, très rapidement. Ce sont de grands convertis, ce sont des hommes, n'est-ce pas, qui se convertissaient à 40 ans, qui étaient avocats, qui étaient ou sénateurs, ou des gens très réputés, et qui adhéraient au catholicisme et qui, ou au christianisme, et qui devenaient en peu de temps évêques. Il a donné des marques si authentiques qu'il avait les qualités, le vraiment d'un vrai pasteur, que ça s'est fait comme ça rapidement. Et puis, il en était, dit-on, absolument digne. Et donc, le peuple de Carthage, comme ça, l'a choisi, mais ça lui a un peu fait peur les premiers jours. Il s'est enfermé dans sa maison. Et ce sont les fidèles qui sont venus à sa maison pour le supplier d'en sortir et d'accepter de devenir un évêque, l'évêque de Carthage. Et le choix d'un si grand homme pour gouverner l'église de Carthage, à une époque où l'on attendait à tout moment une nouvelle persécution, mais ça inspirait un grand courage aux chrétiens. Ils étaient persuadés que par ses paroles, par ses exemples, il les fortifierait contre les ennemis de la foi chrétienne. D'ailleurs, on ne peut expliquer la piété puis la vigueur, hein, puis aussi en même temps cette espèce de miséricorde et puis cette sévérité aussi dans sa charge que par une grâce particulière. Hein. Sa sainteté, sa grâce personnelle éclatait tellement dans tout ce qu'il faisait que tous ceux en étaient émerveillés. D'ailleurs, son visage, qui était grave, avait une touche de joie et de sérénité. Et c'est ce qu'on trouve souvent chez les saints. Ses actions, d'ailleurs, étaient tempérées par la bonté, mais aussi par la fermeté. Il ne s'en laissait pas imposer. De sorte que ses fidèles ne savaient plus trop s'ils devaient le craindre ou l'aimer. Mais disons qu'on l'aimait et on le craignait en même temps. Et c'est ce qui arrive souvent avec ce genre d'évêque. Hein. Il s'habillait de façon très modeste. Il était éloigné des vanités, mais il n'était pas avare. Il voulait être pris pour un homme normal, simplement. Il n'attirait pas l'attention sur lui par des vêtements invraisemblables. C'était toujours de la modération. Et sa charité envers les pauvres était inépuisable. Il y avait aussi un grand zèle pour la discipline ecclésiastique, pour la réforme de son clergé. Ses travaux pour l'instruction de ses fidèles sont immenses. Il a laissé des écrits immenses. C'était vraiment le père du peuple de Carthage, un pasteur remarquable pour son troupeau. Et si on peut dire que l'église de Carthage a joui d'un certain calme pendant un certain temps, elle a été malheureusement troublée par le fameux empereur Dèce, qui a envahi cet empire après la mort des Philippes qui dirigeaient, n'est-ce pas? Et quand le tyran Dèce a été capable de proclamer certains édits, bien, il y en avait parmi eux qui étaient très rigoureux contre les chrétiens. Et puis, les idolâtres, comme on les appelait à l'époque, se sont lancés contre les chrétiens. C'était épouvantable. Toutes les provinces autour de Carthage ont été remplies de martyrs. C'était terrible. Les supplices étaient sans nombre. Et alors, beaucoup de chrétiens risquaient de perdre la foi, et ont perdu d'ailleurs la foi devant le martyr qui les attendait. Et non, ou du moins, ils l'ont renié s'ils n'avaient pas perdu. Et Saint-Cyprien a quand même cherché à les soutenir dans cette tempête épouvantable. Et certains, grâce à la paix qui leur enseignait le calme, n'est-ce pas, de cette paix, il a réussi à les arracher, eux qui étaient attachés à leur bien, à leur plaisir, et il leur a rappelé les vérités de l'Évangile. Et ils n'ont pu se résoudre parfois à tout perdre ça pour défendre ce que lui aimait avec tant de passion. Saint-Cyprien a d'ailleurs publié des textes magnifiques pour fortifier ses fidèles contre ces attaques violentes et les entraîner à la victoire par des exhortations extrêmement puissantes qu'on peut lire encore aujourd'hui et qui sont publiées en français. Il y en a dans la collection Unam Sancta, mais surtout dans Sources chrétiennes. En tout cas, on peut dire qu'il a préparé ses fidèles à la pénitence pour les rendre dignes du martyre par la pratique de toutes sortes de vertus chrétiennes. Saint Cyprien a dû faire face, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, aux idolâtres de Carthage. Eux, ils savaient qu'un tel évêque, aussi vigilant et aussi généreux, donnait du courage aux fidèles. Alors, ils ont essayé par toutes sortes de moyens de s'emparer de lui. Ils avaient vraiment le désir de le mettre à mort, au point que on rapporte que plusieurs ont crié du milieu du grand amphithéâtre de Carthage qu'il fallait amener cet évêque Saint-Cyprien pour être dévoré par les bêtes féroces. Il s'y serait exposé, lui, mais il a suivi les conseils de ses fidèles. On l'a persuadé de se cacher parce que eux craignaient d'être un peu comme des orphelins s'ils avaient été privés de leur évêque, s'il avait été jeté aux bêtes. Et on se disait un peu de bouche à oreille que on se demandait qui prendrait soin aussi bien que lui de toutes ces vierges consacrées que les païens s'efforçaient de séduire. Qui aurait pu ramener à l'esprit pénitence ceux que la crainte, la peur ou la faiblesse faisaient succomber? Qui aurait pu défendre la vérité contre aussi les chrétiens hérétiques qui enseignaient toutes sortes de doctrines contraires à la vraie foi? Qui aurait pu maintenir l'unité, cette unité contre ceux qui se séparaient de l'Église, et qui auraient pu entretenir la paix et la loi évangélique parmi son peuple? Et on disait qui aussi pourrait consoler ceux à qui on avait ravi tous leurs biens, maisons, possessions, etc., en haine de la religion, car on essayait d'appauvrir complètement les chrétiens? Qui aurait pu aussi animer les plus courageux pour les aider à soutenir un deuxième martyr, car souvent on les torturait, puis ensuite on les libérait, et il fallait qu'ils reviennent pour être martyrisés une seconde fois. Enfin, tous ces exemples, ces soutiens qu'il apportait étaient nécessaires au peuple. C'est donc pas vraiment la crainte de la mort qui l'a porté à se cacher, mais le désir de servir davantage les chrétiens. Il voyait d'ailleurs même de sa cachette à aider des malades qu'on lui amenait, à guérir des blessés, à affermir certains qui chancelaient et à relever ceux qui étaient tombés, car il voulait vraiment entretenir, comme on dit, son troupeau. Hein. Quand on parle des fidèles d'un évêque, on parle souvent de son troupeau, pour qu'il ait une fermeté inébranlable dans cet orage effrayant des persécutions. Alors il est donc sorti de Carthage lorsqu'il a eu fini de rassembler ses fidèles pour leur dire le sujet puis les motifs de sa retraite, du fait qu'il s'en allait. Il est demeuré caché dans un lieu sûr, mais comme je vous ai dit, il voyait au besoin ses fidèles. Et puis, il voyait, durant la nuit parfois, ensevelir ceux qui étaient morts dans des supplices. Car les chrétiens étaient nombreux et pouvaient vraiment se débrouiller, si on peut dire, dans une persécution aussi effrayante. Ceux qui avaient perdu leurs biens par l'injustice de ces tyrans ont reçu l'aumône des autres chrétiens, on s'appuyait les uns les autres. Et finalement est arrivée la peste qui a ravagé toute la ville et ça a fourni de nouvelles occasions pour faire éclater le zèle de Saint-Cyprien. Alors il a pourvu aux nécessités spirituelles et temporelles des malades, des pestiférés, qui était abandonné de tout le monde, évidemment, puis il a partagé les emplois de ceux qu'il avait chargés de les assister, afin que personne ne manque de secours, pas même les idolâtres même. Il s'occupait même d'eux, alors il y a eu beaucoup de conversions. Alors, ces lettres, qui étaient remplies du feu de la charité, remplies d'un feu propre aux grands chrétiens, ces lettres étaient remplies d'une cette ferveur incroyable, n'est-ce pas, et qui forçait presque les fidèles à exécuter les instructions qu'il leur donnait. Et les gens se sont transformés, sont devenus de plus en plus chrétiens. On peut dire que si la persécution enlevait à Rome le trône au pape Saint-Fabien, bien, le pape Saint-Fabien a été remplacé par Corneille, un grand ami de Saint-Cyprien. Finalement, des chrétiens de Carthage, qui n'est pas très ferme dans la foi, ont craint de perdre leurs biens, leurs charges et leur vie. Et plusieurs, finalement, à cause de la longueur de la persécution, ont renié leur foi. Et Saint-Cyprien en était très affligé, mais il le comprenait. Son cœur était bon, était ouvert. Hein? Et alors donc, l'Église d'Afrique recevait à la communion ceux qui avaient renié leur foi qu'après une longue pénitence. Et elle les obligeait à des satisfactions assez rudes. Hein? Il s'agissait souvent de gens qui avaient été martyrisés, qui avaient été jetés en prison, qui avaient souffert énormément, mais qui avaient renié leur foi. Et alors, on disait qu'il fallait qu'ils souffrent avant de pouvoir communier, pour réparer ce qu'ils avaient fait. Et le respect que l'on avait pour les personnes qui souffraient pour la gloire de Jésus-Christ était si grand qu'on recevait finalement les pénitents à la communion plus rapidement. Les choses changeaient petit à petit grâce à Saint-Cyprien. Même s'ils n'avaient pas accompli le temps prescrit par les lois ecclésiastiques, on raccourcissait le temps de pénitence. Les pénitences étaient très longues à cette époque-là. On pouvait être condamné à un an d'abstention de la communion, même 2 ans. Alors, cette indulgence à l'égard des gens qui avaient renié leur foi, parfois, avait de mauvais effets. On disait qu'on admettait trop facilement ceux qui avaient sacrifié aux idoles, ceux qui avaient aussi reçu des espèces de billets des magistrats comme quoi ils avaient renié leur foi. Saint-Cyprien a remarqué, du fond de sa retraite, que ça allait en augmentant cette indulgence. Il a tâché d'y remédier par 3 excellentes épîtres qu'il a écrites à son clergé, puis aux martyrs et aux confesseurs, puis à son peuple. Il les exhortait à ne pas trop relâcher la discipline, à être fidèles. Les choses se sont réglées petit à petit. Et son autorité seule pouvait apaiser tout ce trouble qui s'était élevé à ce sujet-là dans Carthage. Alors, il a écrit de nouveau au clergé de Rome, et puis, pour demander conseil, le Saint-Siège était vacant. Corneille n'était pas encore élu. Et le clergé a jugé que le retour à une certaine rigueur de Saint-Cyprien était très sain. On lui a répondu quand même d'user de douceur, et que un excès de douceur, c'était pas une façon de guérir des gens qui étaient malades dans leur foi, c'était parfois une façon de tuer les malades. Il fallait une certaine rigueur, on l'a encouragé, il fallait que les pénitents frappent aux portes de l'église, et puis qu'ils se prosternent sur le seuil de l'église devant tout le monde. Mais on leur demandait de ne pas entrer dans l'église. Et ainsi, pour manifester devant tout le monde qu'ils avaient été des déserteurs. Et ainsi, effacer la honte de leurs péchés. Comme les coutumes ont changé depuis. Alors, Saint-Cyprien a conclu que, par l'avis de plusieurs évêques voisins, on avait trouvé à propos là, de ne rien innover jusqu'à l'élection d'un successeur à la place du pape Fabien, et ce sera Corneille, n'est-ce pas? Et alors les choses se sont réglées, les choses se sont améliorées, et l'on verra tout à l'heure jusqu'à quel point Saint-Cyprien a veillé à l'unité de l'Église et à faire que l'Église demeure vraiment unie. Vous êtes à l'écoute de Rencontres spirituelles. Il est question aujourd'hui de Saint-Cyprien, évêque de Carthage, qui était en somme un peu comme un peu le pape de l'Afrique, c'est-à-dire de l'Afrique connue à l'époque. C'était le principal personnage de l'Église chrétienne, fidèle au pape, au IIIe siècle. Un ancien avocat converti à 40 ans. Et dans un traité sur ceux qui sont tombés durant la persécution, Saint-Cyprien rapporte des châtiments terribles dont Dieu punit, dit-il, l'irrévérence des personnes qui, après s'être souillées des viandes offertes aux idoles, c'est-à-dire qu'ils ont mangé des viandes offertes aux idoles, osent recevoir, dit-il, Jésus-Christ sans avoir été purifié par une véritable pénitence et mériter la réconciliation. Il raconte d'ailleurs d'étranges histoires qu'un homme coupable de crimes contre la foi avait reçu l'Eucharistie dans sa main, comme on communiait à l'époque et comme on communie aujourd'hui. Il n'a trouvé dans sa main que de la cendre, raconte Saint-Cyprien, quand il a voulu la manger. Il y a de nombreux miracles eucharistiques, dit-on, au cours des 2000 ans depuis le début de l'Église. Un jour, je pourrais peut-être y consacrer une émission sans accorder foi nécessairement à ce qu'on raconte comme ça, qui sont peut-être des inventions pour édifier. C'est pas nécessairement vrai, mais ça peut être vrai, et pourquoi ça ne le serait pas? Il raconte aussi qu'une petite fille qui avait été portée par sa nourrice au temple des dieux païens, et à qui on avait fait goûter un liquide offert aux idoles, n'a jamais pu avaler le sang de Jésus-Christ que le diacre lui a présenté dans l'église, car on communiait sous les deux espèces, comme on le fait toujours dans l'église orthodoxe, et aussi dans l'église catholique à l'occasion de rite latin, mais aussi dans les églises unies à l'église catholique, et qui suivent les beaux rites de l'église orthodoxe. Et alors donc, elle n'a pas pu avaler le sang de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, on dit qu'elle a fait tant de résistance qu'elle a obligé cet enfant, elle a obligé la nourrice d'avouer ce qui s'était passé, car cette nourrice s'était mal conduite avec cet enfant. Cette conduite de Saint-Cyprien à ce sujet est tout à fait conforme aux lois de l'époque, aux lois ecclésiastiques qu'on appelle les canons, et c'est une conduite qui était tout à fait autorisée par l'Église de Rome, l'a mis à l'abri de la censure. Mais ceux qui s'étaient séparés de l'Église se sont un peu révoltés contre lui. Et même s'il était un saint aux yeux des gens, ils se sont vraiment opposés à lui. Un prêtre en particulier priva que Saint-Cyprien n'avait pas voulu admettre dans un synode, a mené une cabale. Il était devenu évêque, et avec 5 évêques coupables d'apostasie, on voulut mettre un autre évêque sur le siège de Carthage. Alors, un prêtre, Fortuna, qui avait travaillé à ce schisme avec un dénommé Philicine, leur a semblé être celui qu'on devait nommer comme évêque de Carthage à la place de Saint-Cyprien dans leur église schismatique. Alors, ils l'ont ordonné évêque, ou consacré évêque, comme on disait autrefois, et aussitôt, ils ont envoyé le fameux Philicine à Rome, vers le pape Corneille, qui avait succédé à Fabien, comme vous savez, pour obtenir l'approbation et pour accuser ses cypriens. Alors cette ambassade de Philistine, qui était accompagnée d'autres personnes, a été rejetée d'abord par le pape Corneille. Mais ces schismatiques n'ont pas perdu courage. Ils ont importuné le pape avec insistance. Et comme il n'y avait personne qui n'arrivait de la part de Saint-Cyprien pour expliquer au pape Corneille ce qui s'était passé, ben le pape s'était tenu de son silence dans une affaire si importante. Il lui a écrit en des termes qui témoignent qu'il était mécontent de Cyprien. Alors Saint-Cyprien s'est justifié finalement. Il lui a répondu avec tant de modestie et de simplicité que le pape Corneille, qui le connaissait, a été entièrement convaincu. Et comme l'Église jouissait d'une assez grande paix finalement dans les premières années du règne de l'empereur Valérien, qui avait succédé à Gallus et à Volusien, eh bien Saint-Cyprien a profité de ce calme et s'est appliqué à établir une bonne discipline dans son diocèse. Et là, il a réfuté entre autres l'erreur de ceux qui n'offraient que de l'eau dans le sacrifice de l'autel. Imaginez, on célébrait la messe uniquement avec de l'eau dans certains cas. Alors il leur a prouvé, par une foule de passages du Nouveau Testament, et même de l'Ancien Testament, que le vin est absolument nécessaire à ce mystère. Et que sans cet élément, il ne pouvait pas avoir le sang de Jésus-Christ. Il a témoigné lui-même dans une épître, l'épître 63e à Titilius, que cet abus pouvait être venu de ce que, durant la persécution, là, il y avait des fidèles qui s'assemblaient la nuit, en cachette, pour célébrer la messe, et pour participer à l'Eucharistie. Il craignait qu'en buvant le précieux sang, le vin, eh bien, il craignait que le matin, il puisse être découvert à cause de l'odeur du vin. Alors, Saint-Cyprien a assemblé un autre synode pour remédier à plusieurs autres abus qui s'étaient glissés parmi son peuple. Et puis, il est arrivé toutes sortes d'événements assez curieux, dont je vous fais grâce. En tout cas, il suffit de dire, avec saint Augustin, que si l'on ne trouve pas que Saint-Cyprien a changé de sentiment au sujet de certaines choses où il était un peu sévère, bien, il a été quand même, il est revenu sur ses opinions. Et puis, Saint-Cyprien n'a jamais eu finalement certaines opinions qu'on lui attribue. Ou s'il les a eues, il a su se réformer et changer. En tous les cas, il a réparé une petite erreur qu'il avait faite. Saint-Cyprien, donc évêque de Carthage, travaillait sans relâche au salut de son peuple et au rétablissement de la discipline lorsque finalement un proconsul qui s'appelait Aspase Paterne, après avoir envoyé de nombreuses menaces et des promesses pour ébranler la fermeté de Saint-Cyprien, a décidé de l'envoyer en exil. Alors Saint-Cyprien s'est retiré à Carube, une petite ville sur le promontoire, dit-on, de Mercure, c'était en face de la Sicile. C'est pas tellement loin de Carthage, il n'était qu'à 50 milles de Carthage. Et là, il a eu la révélation que dans un an, il devait être martyrisé. Il a employé tout ce temps, cette année-là, à s'y préparer par toutes sortes d'œuvres de charité. Puis il a écrit aux autres évêques et aux prêtres d'Afrique, qui avaient été relégués, eux autres aussi, de leur siège épiscopal par la persécution, et puis où ils souffraient toutes sortes de misères. Il leur a écrit une lettre de consolation qu'il était impossible de lire aujourd'hui sans sentir vraiment combien il était saisi d'une espèce de flamme de l'Esprit-Saint qui le brûlait, d'un désir ardent aussi lui-même de souffrir pour Jésus-Christ. Ce sont de très belles, de très beaux écrits qu'on peut lire encore aujourd'hui avec beaucoup d'admiration. Il leur a envoyé aussi beaucoup de choses dont qu'ils avaient besoin pour subsister. Il a été très généreux. Il a étendu ses soins charitables sur les chrétiens qui étaient jetés en prison. Il leur écrivait en des termes très très pressants pour les fortifier dans la confession de leur foi, puis pour les animer à la patience. Et quand il a su que Galère Maximien avait succédé à ce fameux Aspase dont je viens de vous parler, mais il est revenu à Carthage. Il s'est caché dans les jardins qui lui avaient appartenu autrefois. et qu'il avait vendu pour assister les pauvres. Alors là, il était plus près de son peuple pour veiller au bien de son peuple. Et le peuple venait le trouver dans sa cachette. Mais ayant appris qu'on avait donné l'ordre de s'emparer de lui pour le mener à Utique, où était le proconsul, bien il s'est retiré ailleurs, dans un lieu sûr, pour y attendre l'occasion de souffrir la mort dans sa ville. Et non pas à Utique, il voulait être martyrisé à Carthage, en présence de son troupeau, en présence de ses fidèles qui l'aimaient tant. Et comme il craignait que sa retraite soit mal comprise par certains fidèles, il a écrit une nouvelle lettre pour leur en donner la raison. Il dit dans cette lettre, « Ayant été averti que l'on envoyait des soldats pour me mener à Utique, je me suis absenté sur le conseil de mes amis, et j'ai cru qu'il était plus convenable que je proclame la vérité dans la principale ville de mon diocèse, plutôt que dans un autre lieu, afin d'y instruire mon peuple par l'exemple de ma mort, et d'y fortifier les faibles par ma foi, parce qu'en ce moment, ce que dit l'évêque, confesseur de Jésus-Christ, il parle de lui-même, il le dit comme étant la bouche de tous. L'honneur de notre Église, continue-t-il, qui est maintenant si glorieuse, serait beaucoup diminué si l'on me faisait mourir dans un pays étranger. Il est donc à propos que je reçoive la couronne du martyr à la vue de tous les Carthaginois. C'est la grâce que je demande continuellement à Dieu, pour moi et pour vous, afin que mourant devant vos yeux, je vous montre le vrai chemin du ciel. Mais il n'est pas mort néanmoins dans Carthage, mais tout près de Carthage. Et la présence de tant de monde de la ville de Carthage qui sont venus pour le voir, on peut dire que son souhait était quand même accompli. Le proconsul l'a fait prendre et amener devant lui, dans une maison de campagne, donc, dans le voisinage de Carthage. Et celui qui l'avait fait prisonnier l'a retenu la première nuit dans son logis. Donc, il était presque en liberté. Et cette maison était aussitôt entourée d'hommes, de femmes et d'enfants et de vieillards qui sont accourus pour voir ce que deviendrait leur saint évêque, saint Cyprien. Il y avait beaucoup de jeunes filles dans la troupe. Et comme la peur de la mort ne l'empêchait pas de veiller sur son troupeau, il a donné ordre qu'on les sépare et qu'on les garde dans l'obscurité, de crainte que les soldats ne leur fasse quelque violence. Alors saint Augustin loue admirablement cette intelligence de saint Cyprien. Et le matin étant venu, bien il est conduit devant le proconsul, qui lui fait voir l'ordre qu'il a des empereurs, et qu'il l'obligeait, saint Cyprien, de sacrifier au Dieu. Il fallait qu'il sacrifie au Dieu. C'est ce que les empereurs voulaient. Mais comme il le trouvait insensible à toutes ses remontrances et ses menaces, finalement, ben il le condamne à avoir la tête tranchée. Saint Cyprien écoute tranquillement cette sentence et il élève son cœur à Dieu. « Je vous rends grâce, dit Saint Cyprien, je vous rends grâce, mon Seigneur, de ce que vous daignez retirer mon âme de la prison de ce corps mortel. » C'est parmi ses dernières paroles. Les fidèles, qui ne l'abandonnent pas, écrivent de leur côté d'une même voix, « Allons, et faisons-nous décapiter avec lui. » Ça ressemble au martyr japonais dont je vous ai parlé, il y a quelques jours. Le bourreau paraît tout tremblant quand il s'approche de Saint-Cyprien. Et il craint, le bourreau, de la peur de tuer Saint-Cyprien. Mais c'est Saint-Cyprien lui-même qui l'encourage à lui donner le coup. Et d'ailleurs, pour le récompenser de cette grâce qu'il va lui procurer, dit Saint-Cyprien, il lui fait distribuer 25 pièces d'or. Après cette action héroïque, il se dépouille de ses habits. Il portait une dalmatique et un petit mantelet et une aube de lin. Le cardinal Baronius, qui a beaucoup écrit sur les huit saints, croit que le camail, le petit mantelet, et le rocher des évêques d'aujourd'hui, ça a quelque rapport avec ça. Et tous ceux qui voient ce spectacle de Saint-Cyprien qui se fait tuer fondent en larmes. Tandis que lui seul est dans une joie, une sérénité qui étonne tout le monde. Elle paraît sur son visage. Il y a des gens qui jettent des linges pour recevoir son sang, afin de le garder comme un trésor. Alors il se bande les yeux lui-même, et il se fait lier les mains par un de ses prêtres. Puis, s'étant mis à genoux, il reçoit généreusement le coup de la mort. Alors Saint-Cyprien est martyrisé, donc il a été décapité. Et les clercs, les prêtres, accompagnés de chrétiens, enlèvent son corps et l'enterrent avec beaucoup de solennité. Car je vous le rappelle, les chrétiens étaient très nombreux, ils pouvaient se permettre toutes sortes de choses. Ils portaient des cierges allumés à leurs mains. Ils sont d'autant plus hardis à lui rendre ce dernier devoir-là en public, sans se soucier du proconsul ou de la fureur des idolâtres, qu'ils souhaitent de toute façon ardemment de mourir pour Jésus-Christ à l'exemple de leur évêque. Ce martyr est arrivé le 14 septembre, le même jour où Saint Corneille avait été aussi martyrisé à Rome, mais à une autre année. Car Cyprien, lui, est mort en 258 et Corneille en 253, 5 ans plus tôt. L'Église ne solennise pas la fête de l'un et de l'autre le 14 parce que c'est la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Le 15, c'est l'octave de la Nativité de la Sainte Vierge. Alors on a mis ça au 16. On a bâti, après le martyre de Saint-Cyprien, deux églises en son honneur. Et sa fête n'a pas été seulement solennelle en Afrique, mais aussi en Italie, comme il paraît d'ailleurs dans une épître du roi Alaric à Sévère. Et c'est Procope, dans son livre de la guerre des Vandales, qu'il l'appelle par excellence la solennité cyprienne. Déjà, il était très fameux, très illustre au début. Et ses reliques ont été apportées en France par des ambassadeurs de Charlemagne, auxquels l'émir Aaron, après la conquête musulmane, n'est-ce pas, l'émir Aaron les avait donnés, ces reliques-là, parce qu'il y avait, pour ainsi dire, plus de chrétiens, tout le monde avait été forcé, plus ou moins, et même très forcé, on le sait, à devenir musulman. Alors les reliques ont été déposées dans la ville de Lyon, selon certains auteurs comme Bède et Adon, mais un autre écrivain, Duchaussée, dit qu'elles ont été transportées à Compiègne. Compiègne, c'est au nord-est de Paris, c'est tout près de là où habite Jean Vanier, donc dans une abbaye qui avait été bâtie par Charles le Chauve, sous le titre d'ailleurs de Saint Corneille et Saint Cyprien. Les pères de l'Église ont fait des tas d'éloges de Saint Cyprien. Ce serait impossible de tout rapporter ça en détail. Nous avons 5 sermons de grandes louanges qu'a fait Saint Augustin en l'honneur de Saint Cyprien. Il y en a 2 sermons aussi de Saint-Maxime, 1 de Saint-Pierre Chrysologue, etc. Alors son esprit, son éloquence, son zèle paraissent dans d'ailleurs ses ouvrages, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est vrai que le pape Gélase les a mis pendant un certain temps au nombre de livres apocryphes. Mais on a prouvé que ses écrits dans l'ensemble sont originaux et vraiment de Saint-Cyprien. La première lettre ou le premier traité qu'il a écrit, c'est « Mépris du monde ou de la grâce de Dieu ». Il avait composé cet ouvrage peu de temps après sa conversion. Il y a aussi le livre de « La vanité des idoles ». Il n'était que laïque quand il a écrit ça. « La vanité des idoles ». Que d'idoles nous avons aujourd'hui ? On aurait peut-être besoin se rappeler la vanité des idoles, et que la seule personne qui mérite vraiment tout notre amour, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est en lui qu'on trouve vraiment une source inépuisable d'amour pour les autres. Mais ça part du cœur de Dieu, du cœur de Jésus. Quand il était catéchumène, on dit qu'il a composé deux livres de témoignages aussi. Il a composé un livre sur la conduite des vierges, qui a été écrit immédiatement après être devenu évêque. Un livre très important qu'il a écrit et qu'on retrouve dans la collection Unam Sanctam, je l'ai dans ma bibliothèque, c'est pas très long, mais c'est très dense et c'est très beau. C'est un peu dépassé, il faudrait repenser à l'unité d'Église d'une façon un peu nouvelle. Eh bien, il a écrit ça peu de temps après avoir quitté sa retraite pour retourner à Carthage, alors qu'il était persécuté par les schismatiques. Il observe d'abord que le démon sème les hérésies. C'est que le démon occasionne les schismes, dit-il, pour perdre les âmes qui ont échappé au piège de l'idolâtrie païenne de cette époque, sous la Rome païenne. Après cela, il démontre que l'Église de Jésus-Christ est essentiellement une. Il dit que pour rendre cette unité visible, le Sauveur Jésus-Christ a bâti son Église sur Saint-Pierre et lui a donné le pouvoir des clés à Saint-Pierre. Et que, quoique Jésus-Christ ait donné le même pouvoir à tous les apôtres, il a voulu que la source de l'unité viennent d'un seul, et que tout l'édifice porte sur ce fondement qu'est l'évêque de Rome. Saint Cyprien établit pour règle générale, et je cite, que dans les matières de la foi, la voie qui conduit à la vérité est courte et facile, et que les faits tiennent lieu de toute autre preuve. Et il vient ensuite directement à l'unité de l'Église fondée sur Saint-Pierre et il écrit « On ne peut obtenir la récompense que Jésus-Christ a promise à ses disciples quand on abandonne l'Église. » C'est pour ça qu'il avait dit « Hors de l'Église, point de salut. » Or, justement, dans des ouvrages extrêmement intéressants sur l'initiation théologique publiés il y a très longtemps, dans le quatrième volume, la section écrite par le père Liéger, il parle longuement de cette parole de Saint-Cyprien, hein, et que l'appartenance visible à l'Église, ça n'est pas la condition exclusive du salut. Et on dit bien que l'Église, hors de l'Église, existe. Et que la formule « hors de l'Église, point de salut » est d'une vérité ambiguë. Elle a fait fortune dans la catéchèse de l'Église autrefois. Et que si Saint Cyprien l'a dit et l'a pensé un peu dans ce sens-là, il faut bien la comprendre autrement aujourd'hui, avec cette infinie tendresse qui nous est enseignée par l'Église catholique elle-même. Il a écrit d'autres ouvrages sur l'oraison dominicale. Et il a écrit aussi sur la mortalité, une exhortation martyre. Il a écrit un très beau livre sur l'aumône et les bonnes œuvres, et du bien de la patience aussi. Il a écrit sur la jalousie, l'envie, et des lettres, 81 lettres remarquables. Je vous lis un tout petit passage. L'Église est une. Coupez un rayon de soleil de son lumineux foyer, et l'homogénéité lumineuse meurt dans l'opération. Coupez une branche d'arbre, elle dépérira. Privez un ruisseau de sa source, il tarira. Ainsi en va-t-il de l'Église du Seigneur, qui de sa lumière illumine l'univers. Dans son sein nous naissons, de son lait nous sommes nourris, de son esprit nous sommes animés. Après sa conversion, il dit quand le baptême, seconde naissance, eut restauré en moi l'homme nouveau, stupéfiante métamorphose. Plus de doute, plus de barrière. Seulement la lumière, ce qui jadis me paraissait difficile, me semble maintenant réalisable. L'impossible devient possible. Voilà bien l'œuvre de Dieu, et je dis bien de Dieu. Toutes nos possibilités viennent du Seigneur. Et dans une lettre à un diacre qui avait quitté l'église, il lui dit, « Tu dois le savoir, dans l'église il y a un évêque, et l'église est dans l'évêque. Si quelqu'un n'est pas avec l'évêque, il n'est pas dans l'église. Ceux-là sont dans l'église qui sont le peuple uni à son prêtre et le troupeau adhérent au pasteur. » Il avait un sens de l'unité de l'église extrêmement fort, qui doit être nuancé avec tendresse, mais ça ne nous empêche pas de comprendre ce qu'il veut dire. Il a écrit aussi de très belles prières, et je vous cite la fin d'une prière. « Demandons à Dieu que son affection paternelle vienne à notre secours, qu'il opère les prodiges de sa puissance afin que les blasphèmes des persécuteurs soient confondus, que la pénitence de ceux qui sont tombés soit plus régulière, et que la foi ferme et constante de ceux qui persévèrent soit glorifiée. » Saint Cyprien, évêque de Carthage, évêque du IIIe siècle.